Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager ce message. Peut-être lever un petit peu encore. Hein, voilà. Hop là. C'est bien. Donc je disais que je suis très heureux de partager avec vous ce message de la Bible, les fruits de l'Esprit. Alors certainement, vous avez déjà entendu et réentendu et encore entendu ce genre de message. Mais je me dis, après tout, ce qu'on vient de lire, il faudrait pas pratiquement le lire tous les jours. Avoir ça au réveil, quand on se réveille le matin, lorsqu'on est un petit peu en forme, lorsqu'on a pris son petit déjeuner, lorsqu'on a les yeux ouverts, eh bien, se dire, voilà, je relis ces textes. Ce texte assez court, mais qui a priori est une base pour notre vie à nous, qui nous disons chrétiens, parce que là-dedans il y a des vérités fondamentales. Et l'apôtre Paul, qui a écrit ce texte, puisque c'est l'épître de Paul, hein, Paul était quelqu'un, un chrétien, qui nous a précédés il y a plus de 2000 ans, et donc il nous a laissé quelques témoignages de cette sorte, des lettres qui sont arrivées jusqu'à nous, et des lettres d'encouragement, des lettres d'enseignement. On appelle ça des épîtres, mais on appelle ça aussi des lettres. Et dans ces lettres, on retrouve des choses qui sont bien pour notre vie à nous, les chrétiens du 21e siècle, même si ces textes ont été écrits au tout premier siècle. Je crois que bien sûr, nous vivons au 21e siècle, nous vivons dans une certaine modernité, mais il y a des choses essentielles pour notre vie qui sont vraies, qui étaient vraies il y a 2000 ans, qui étaient vraies il y a 1000 ans, qui sont vraies aujourd'hui, qui seront encore vraies dans plusieurs siècles, si le Seigneur ne nous a pas repris d'ici là. Alors Paul s'adresse à une église, l'église des Galates. Et Paul a beaucoup de soucis avec cette église. Bien sûr, on a lu une petite partie du texte, mais à vrai dire, Paul, donc l'auteur de ce texte, donc qui voyageait d'église en église pour justement encourager les chrétiens de cette époque-là, eh bien s'aperçoit que les chrétiens de cette église n'ont pas compris le message de Jésus-Christ. Alors il va les reprendre, et si on lit au chapitre 1, on voit notamment Paul qui dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. » Donc il s'étonne. Un peu plus loin, il dit « Ô Galates, dépourvus de sens. » Donc il faut bien comprendre ce texte que nous venons de lire. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel il a été écrit. Paul s'adresse aux chrétiens de Galate et il veut redresser la barre. En français courant, on dirait qu'il va leur remonter les bretelles. Je ne sais pas si c'est une expression que nos amis comprennent, mais il va essayer de les remettre dans le droit chemin, parce qu'il y a des choses qui ne collent pas, et notamment les Galates n'avaient pas très bien compris le message simple de l'Évangile, à savoir que Dieu les aimait tout simplement, et Dieu voulait qu'ils changent leur vie, que cette vie passée, où ils faisaient des choses qui n'étaient pas très glorieuses, eh bien, Dieu les invitait à changer de vie, non pas par leurs propres moyens, mais en s'approchant, c'est ce que la Bible appelle les fruits, en s'approchant de Dieu, non pas par leur propre volonté, leur propre désir, mais en s'approchant tout simplement de Dieu. Et les gens de Galate avaient ce travers, c'est qu'ils étaient retournés à leur religion d'antan. Ils retournaient aux lois de Moïse, à ces textes qui les avaient plus ou moins asservis, rendus prisonniers. Et voilà pourquoi Paul, eh bien, veut essayer de remettre les choses en place. Et il est dit aussi, au chapitre 7, au verset 7 du chapitre 5, vous courriez bien, qui vous a arrêté? Et c'est vrai que que l'apôtre Paul compare souvent la vie chrétienne, à une course à pied. Il compare notre vie chrétienne à une course à pied dans laquelle on est engagé depuis le jour où on s'est engagé dans cette vie chrétienne. Et c'est vrai qu'une course à pied demande des efforts. Il faut bien sûr partir, mais il faut soutenir le rythme, puisqu'on se bat contre un chronomètre, contre une distance. Et il dit, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Et c'est vrai que si on compare la vie chrétienne à une course, bien sûr, la comparaison, elle a des limites, parce que lorsque l'on court dans un stade, on tourne un petit peu en rond. Le stade, c'est monotone. Par contre, le sol sur lequel on court, il est bien aplani. La vie chrétienne n'est pas une vie monotone. Tout au moins, si on vit pleinement cette vie chrétienne, eh bien, cette vie est remplie d'un certain nombre de richesses, de toutes sortes de richesses. Par contre, le chemin n'est pas aplani, le chemin est parfois un peu dur. Mais Paul dit, vous étiez bien parti, mais vous vous êtes arrêté. Alors, il va dresser deux tableaux. Le tableau numéro un, vous l'avez vu, c'est ce qu'on a appelé l'œuvre de la chair. C'est tout ce qui caractérise l'homme qui n'a pas eu un changement profond dans son cœur. Donc, vous allez me dire, peut-être c'est un peu dur cet après-midi de considérer tous les critères, tous les aspects de la vie que Paul nous décrit, puisqu'il dit des choses très dures, il parle d'impureté, de l'adultère, de choses comme ça, de mensonges. Et là, il s'adressait, je vous le répète, à des chrétiens, donc c'est étonnant. Mais ça nous interpelle, nous qui nous disons chrétiens, nous qui sommes chrétiens, peut-être cet après-midi, Paul veut nous interpeller. Donc dans ce tableau numéro 1, il nous rappelle ces choses qui déplaisent à Dieu. Et puis il nous dit, par contre, il y a autre chose. Il y a une autre vie qui est possible. C'est vrai que si le soir on ouvre notre poste de télévision, eh bien on voit des choses terribles. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde terrible. Que ce soit les informations ou que ce soit les divertissements, je suis effaré lorsque je zappe, puisque je zappe moi aussi, je zappe les chaînes de télé et à chaque fois, je vois bien souvent des scènes de meurtre, le pistolet, le revolver, le sang qui coule. Nous vivons dans un monde très dur, un monde cruel, et saint Paul nous le décrit bien dans le tableau numéro 1, mais il nous dit, il y a autre chose de possible, c'est la vie de l'esprit, la vie que tout un chacun peut avoir, ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à un pays en particulier, à un groupe en particulier. Dieu veut se révéler à tout le monde, à toute la création. Et cet après-midi, je voudrais que s'il y avait une chose à retenir, c'est que Dieu propose autre chose que ce que l'on peut voir aux actualités, autre chose que ce qu'on peut voir dans les films et autres. Alors bien sûr, tout n'est pas mauvais dans notre monde, tout n'est pas mauvais, il ne faut pas rejeter tout, mais lorsqu'on est un petit peu honnête, il faut quand même se dire que nous vivons dans ce 21e siècle. Bien sûr, il y a la technique, il y a des choses formidables, mais parallèlement à ça, nous vivons des choses terribles. Et ce que je voudrais que vous reteniez cet après-midi, c'est qu'il y a une autre alternative, il y a une autre possibilité que Dieu veut offrir à tout un chacun, que vous veniez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Donc, pour tout habitant de cette terre, il y a une alternative. Alors, c'est vrai que Dieu, que Paul ici s'adresse à des chrétiens, des gens qui ont déjà fait une expérience avec Dieu, des gens qui connaissent l'Église. Et il va être très précis, il va donc décrire un certain nombre de choses qu'on appelle les fruits de l'esprit, et c'est donc de ça dont je veux m'entretenir cet après-midi. Paul nous révèle que si nous nous approchons de Dieu, si nous sommes sincères, si nous voulons vraiment eh bien, nous mettre avec Dieu, non pas par nos propres forces, parce que par nos propres forces, nous ne pourrons pas aller très loin. La Bible décrit notre personnalité comme le vieil homme, c'est-à-dire ce qui était avant. Par contre, la Bible nous dit aussi que toutes choses sont passées, et maintenant les choses sont devenues nouvelles. Et Dieu nous dit aussi, demeurez en moi, et si vous demeurez en moi, eh bien moi je demeurerai en vous, et toutes choses vont changer. Et voici, cet après-midi, eh bien, je voudrais que vous vous rappeliez que si vous vous attachez au Seigneur, à la personne de Jésus-Christ, si vous vous soumettez au Saint-Esprit, eh bien, vous verrez que ces deux conditions, eh bien, vont faire un changement puissant, un changement remarquable dans votre vie. Alors, dans le tableau numéro 2, et c'est de ça dont on veut parler cet après-midi, je vais sortir ma montre parce que le temps passe très vite. Donc, l'apôtre, l'auteur du texte, nous cite un certain nombre de choses qu'il compare à des fruits. Des fruits, tout le monde sait ce que c'est qu'un fruit. Et il nous dit que nous aussi, notre vie terrestre, notre vie d'aujourd'hui, pas la vie dans l'au-delà, hein, pas la vie pour on ne sait quand, mais aujourd'hui même, notre vie peut être comparée et peut porter plusieurs fruits. Et le premier dont Paul parle, c'est l'amour. Alors bien sûr, l'amour, on peut en parler sous toutes les coutures, on peut passer tout une après-midi là-dessus. Et c'est vrai que nous devons nous rappeler que Dieu nous a aimés avant tout. Dieu nous a aimés le premier. Alors peut-être que cet après-midi, c'est étonnant d'entendre ça, d'entendre dire que Dieu nous aime. Mais pourquoi ? Après tout, Dieu nous aimerait-il ? Qu'est-ce que sommes-nous pour que Dieu nous aime ? Eh bien, c'est vrai, Dieu nous aime parce qu'il est à l'origine de notre existence. Même, bien sûr, si nous avons des parents, etc. Mais Dieu a voulu que l'homme soit heureux sur terre. Et bien sûr, je ne vais pas rentrer dans tous les détails cet après-midi, nous connaissons les raisons pour lesquelles ça ne s'est pas passé aussi bien que prévu. Mais Dieu a ce plan merveilleux d'amour pour nous, et il a donné les moyens pour que nous puissions accéder à cet amour. Et si Dieu nous aime, alors nous qui sommes dans l'Église, nous qui disons que Dieu nous aime, eh bien nous aussi, nous devons aimer les gens qui nous entourent. Alors bien sûr, aimer les gens, ce qu'on appelle les frères, les sœurs de l'Église, qui sont dans notre Église, mais aussi nous devons aimer eh bien, toutes les personnes que nous avons l'occasion de rencontrer, tous ceux qui nous entourent, notre voisin, peut-être notre voisin qui n'est pas très gentil avec nous, mais la Bible est claire, nous devons l'aimer lui aussi. Nous devons aimer eh bien, ce collègue de travail avec qui nous nous entendons peut-être pas trop, mais lui aussi nous devons l'aimer. Donc l'amour de Dieu dans nos vies doit se manifester aussi par nous, et c'est un fruit qui est... Nous devons présenter ce fruit de l'amour, eh bien nous devons aimer notre prochain. Alors notre prochain, dimanche dernier j'étais dans une église en déplacement, et justement le pasteur parlait de cette chose-là, et j'ai été interpellé par un verset de l'épître de Jean qui nous dit « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière » et aucune occasion de chute n'est en lui, mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où ne va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment interpellé, et je me suis dit, mais c'est vrai, parfois, on peut être tenté, malgré nous, dans l'Église, eh bien de faire une différence avec l'un ou l'autre, de dire, bon, ce frère-là, je l'aime moins, parce que pour telle et telle raison. Mais si nous l'aimons moins, nous faisons déjà une différence. Et à vrai dire, nous devons aimer tout le monde sur le même plan. Parce que commencer à dire celui-ci, je l'aime un petit peu moins, eh bien nous sommes déjà en train de le haïr quelque part. Et parfois, la Bible, eh bien elle nous reprend. Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons marché depuis des années, dans les voies de Dieu, nous qui sommes bien, bien contents, eh bien, nous devons nous laisser interpeller par cette parole. Et bien sûr, l'amour, c'est un des plus beaux fruits que Dieu veut mettre en nous. Parce que nous pouvons avoir toutes les qualités du monde. Nous pouvons, comme le dit la Bible, partager tous nos biens, vendre tous nos biens, donner aux pauvres. Mais si nous n'aimons pas, si nous n'avons pas cet amour dans nos cœurs, si nous n'avons pas cette chaleur dans nos cœurs pour aller vers l'autre, eh bien, la Bible dit que nous ne valons rien. Mais par contre, si nous voulons nous approcher de Dieu, non pas par nos mérites, encore une fois, ce n'est pas un mérite qui vient de nous-mêmes, mais Dieu veut mettre en nos cœurs ce fruit qui est l'amour. Alors, comme un fruit qui pousse sur un arbre, eh bien, le fruit ne vient pas à maturité d'un seul coup. Le fruit, il a besoin de... C'est une fleur d'abord qui, après, forme un petit embryon de fruit. Ce fruit, il grandit. L'arbre puise ses forces dans le sol. Les racines, eh bien, elles amènent jusqu'au fruit tout ce qui est nécessaire. Et bien sûr, à terme, ce fruit est mature. Mais cet après-midi, donc, je voudrais vous interpeller parce que Dieu nous appelle à ce que nous produisions eh bien, ce beau fruit qu'est l'amour. Alors, on pourrait parler toute l'après-midi de cette qualité de l'amour, de ce fruit merveilleux dans nos vies, mais il y a d'autres fruits que l'apôtre a décrits. Il y a un fruit qu'on appelle la joie. Sommes-nous des gens joyeux ? Bien sûr, dans le monde, il y a de la joie. C'est incontestable. Je crois qu'il y a même des joies tout à fait naturelles, tout à fait légitime. Je sais que les jeunes étudiants qui réussissent un examen sont joyeux. D'accord ? C'est normal d'avoir de la joie quand on réussit son examen, quand on passe son permis de conduire, lorsqu'on rencontre une fille, lorsqu'on est un gars ou une fille qui rencontre. Enfin, on a de la joie, c'est normal. Tout ça, c'est bien légitime. Mais ces joies, avec le temps, eh bien, elles se perdent un petit peu parce que La joie de l'examen, la joie du permis de conduire, même la joie de la rencontre, de l'être aimé, eh bien tout ça se perd un peu avec le temps. Ce sont des joies qui, étant toutes légitimes, sont parfois éphémères. Mais, bien sûr, elles sont légitimes. Alors le monde, parfois, veut aussi nous produire des joies artificielles. Alors ça, ce sont des joies d'une nuit, des joies d'une soirée. Ça, c'est encore autre chose. Mais la Bible nous parle d'une autre joie. Et cet après-midi, on pourrait dire, bon, il est la joie de voir des frères, des sœurs dans l'Église, justement de la communion fraternelle. Et si ces frères, on les aime, eh bien, tout ça nous remplit d'une joie extraordinaire. La prière exaucée. Tout à l'heure, on a prié pour une jeune fille. Eh bien, quand ces prières sont exaucées, on a de la joie du service, la joie de faire quelque chose dans l'Église. Ça, c'est une vraie joie. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Parce que lorsque nous sommes engagés dans l'Église, alors bien sûr, l'engagement, il peut changer dans le courant de notre vie. Il peut évoluer, mais nous aurons toujours une joie de l'engagement, une joie de donner, une joie de pardonner aussi. Vous savez que le pardon, c'est quelque chose de formidable, pardonner. Lorsque quelqu'un nous a offensés, lorsque quelqu'un nous a peut-être fait du mal, eh bien, lorsqu'il y a un pardon mutuel, ce pardon va nous amener de la joie de voir la prospérité de l'Église, la joie de voir de nouvelles personnes qui se donnent à Dieu. Toutes ces choses-là sont des joies qui viennent du Seigneur. Il y a aussi la joie de souffrir aussi parfois avec le Seigneur. Et bon, bien sûr, il ne faut pas rechercher ça en priorité, mais ça peut arriver. Donc, un deuxième fruit que l'apôtre nous met en valeur, donc l'amour, la joie, nous devons, eh bien, lorsque nous sommes à l'extérieur, lorsque nous ne vivons pas dans l'Église, bien sûr, nous nous réunissons à l'Église, mais nous vivons à l'extérieur, eh bien, cette joie doit transpirer, cette joie doit faire envie aux autres. Si nous ne faisons pas envie aux autres, bon, quelque part, il y a peut-être un petit souci si nous sommes tristes. Imaginons que le lundi matin, nous allions au travail et nous sommes tristes. Bon, ça peut arriver, hein. On imagine ça peut arriver. Parce qu'il y a des circonstances de la vie qui font que, bien sûr, il y a des événements douloureux. Mais d'une façon générale, le chrétien doit apporter cette joie dans l'Église. et aussi à la porter en dehors de l'Église, dans son travail, dans sa famille, avec ses relations. Donc la joie est également un beau fruit que l'apôtre nous rappelle et qu'il nous dit de produire. Alors, encore une fois, ça va grandir. Tous ces fruits ne vont pas arriver à maturité d'un seul coup. Ça serait trop beau et certainement inimaginable. Un troisième fruit que l'apôtre nous propose, c'est la paix. La paix. Il nous est dit que Jésus-Christ est le prince de paix. Et si nous qui sommes dans l'Église, nous avons un Seigneur que nous servons, qui est un prince de paix, eh bien nous aussi, nous devons être des ouvriers, des artisans de la paix. Même chose que la joie tout à l'heure, lorsque nous arrivons là où Dieu nous a placés, dans notre travail, à notre école, je ne sais où, eh bien nous devons être des hommes, des femmes de paix, des jeunes gens, jeunes filles de paix. Nous devons être les casques bleus de la paix. Bien sûr, c'est vrai que nous sommes des soldats aussi. Le soldat, c'est fait pour combattre. Alors bien sûr, soldat et paix, bien sûr, ça ne va pas toujours ensemble. Mais dans ce contexte, nous sommes des soldats de paix, nous sommes des ouvriers de paix. Nous devons transmettre la paix et non pas attiser des conflits. Nous ne devons pas apporter des conflits. Et si un conflit existe, nous devons, autant que faire se peut, s'il nous est possible, eh bien, d'essayer d'apporter la paix. On pourrait en parler longuement, hein, de la paix. Mais voilà un très beau fruit que l'apôtre nous propose. Donc voilà déjà trois jolis fruits que nous devrions tous porter en nous. Notre nature devrait déjà resplendir de ces trois magnifiques fruits, l'amour, la paix, la joie. Il nous est parlé de la bonté aussi. Nous devons être bons, toujours prêts à proclamer la bonté. Dieu est bon avec nous, nous le savons, Dieu est bon et nous connaissons ses bontés. La bonté de Dieu, elle est immense, nous avons parfois du mal à la décrire, mais il veut aussi que nous, eh bien, nous soyons des gens bons autour de nous, des gens qui apportions, eh bien, de bonnes choses autour de nous. C'est vrai que bien souvent, dans nos relations, dans notre cercle d'amis, nous pouvons voir des choses qui ne sont pas toujours glorieuses. Et Dieu nous appelle, nous, à être bons, bien sûr, à être bons dans l'Église, bons avec les chrétiens, premièrement, mais aussi bons avec notre prochain, avec celui que nous pouvons côtoyer dans notre travail, dans notre école. Toutes ces choses, eh bien, font partie de la volonté de Dieu. Alors, bien sûr, vous me direz, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont bons naturellement, c'est vrai, c'est vrai. Mais à plus forte raison, nous qui sommes chrétiens, devons-nous exercer cette bonté, eh bien, dans notre Église, lorsque nous nous réunissons, nous devons avoir des gestes d'affection pour eh bien, nos frères, nos sœurs, pour notre pasteur. Nous ne devons pas être quelqu'un de fermé, centré sur lui-même, mais nous devons être bons. Il y a un cinquième fruit qui s'appelle la bienveillance, et la bienveillance, la bonté, ce sont des choses qui vont ensemble. La bienveillance, c'est pratiquement l'action qui fait qu'on va aller répandre la bonté autour de nous. C'est vrai que dans la Bible, ces deux mots ont souvent la même racine. Donc être bienveillant, c'est aimer, faire le bien. C'est pas faire du bien sous une contrainte, se dire, eh bien aujourd'hui, il faut que je fasse ma BA, comme chez les scouts, vous connaissez ça. Chez les scouts, on a la BA, la bonne action. Alors bon, c'est un peu caricatural, bien sûr, c'est un peu... Mais normalement, les scouts, s'ils n'ont pas fait leur BA, ça ne va pas, quoi. Ils n'ont pas bien rempli les objectifs de la journée. Mais nous, ce n'est pas la BA que nous devons faire. C'est être naturellement porté. Alors peut-être qu'il y a des jours où nous n'aurons pas exercé forcément quelque chose de bon. Mais lorsque l'occasion se présente, surtout ne pas la rater. C'est ça, être bienveillant et d'apporter quelque chose de bon lorsque nous avons une occasion de le faire. Bien sûr, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas un calendrier pour exercer la bonté. Cette bonté, elle s'exerce, eh bien, quand il le faut. La Bible rapporte un exemple, quand l'apôtre Paul s'est échoué sur une île, il est dit que les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Alors je me dis, si les barbares sont capables de faire ça, à combien plus forte raison nous, qui encore une fois revendiquons une étiquette, revendiquons notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, à plus forte raison, devons-nous exercer cette bonté, être toujours prêt à faire quelque chose de bon. Voilà encore un fruit précieux. Je vais rapidement parce que le temps tourne, le temps va extrêmement vite cet après-midi. Un autre fruit, c'est la fidélité. Dieu nous demande d'être fidèles. Alors c'est vrai que la fidélité, ça peut se décliner aussi sous plusieurs angles. La fidélité entre un mari et une femme, bon ça c'est quelque chose de précieux. Mais il y a aussi la fidélité du chrétien vis-à-vis de ses frères. L'engagement qu'il a pu prendre, si tu as pris un engagement auprès de l'un de tes frères ou de ta sœur ou de ton pasteur, eh bien sois fidèle, manifeste cette fidélité et ne te dérobe pas. La fidélité dans la prière, la fidélité dans l'assiduité aux réunions, que sais-je encore. Mais ce sont des fruits. Oh, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Bien sûr, on a parlé en premier de l'amour, parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on voit au grand jour. La fidélité, bon, ça ne se voit peut-être pas beaucoup, mais c'est quelque chose de si précieux. Parce que quand quelqu'un n'est pas fidèle, eh bien, tout autour de lui va s'effondrer. Tout ce qu'il va pouvoir dire, on ne va pas le croire. Mais au contraire, si quelqu'un est fidèle, eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur ce frère, sur cette sœur. Donc cette fidélité est quelque chose d'extraordinaire. C'est beau, la fidélité. Alors, je ne vais peut-être pas aller au bout de tous mes fruits, mais ce n'est pas grave. Je vais finir par un fruit qui est merveilleux, qui est la douceur. Vous savez, la douceur. C'est vrai que ça ne fait pas trop partie de notre standard de vie, ça. Dans la rue, il faut mieux être un peu brut, il faut mieux être un peu... il faut mieux me montrer ses muscles, voire montrer les dents, entre guillemets, pour se faire voir. Au travail, parfois, si vous êtes quelqu'un de doux, on va peut-être vous regarder, on va dire « Oh, il est gentil, lui !» Mais parfois, il faut se battre. Pourtant, l'apôtre, là, nous demande d'être doux. « Prenez mon joug sur vous, disait Jésus, car je suis doux et humble de cœur. » Jésus est doux avec nous. Et oui, vous savez ça, que Jésus-Christ est doux avec nous. Et nous, bien sûr, à notre tour, eh bien, nous devons manifester cette douceur. Alors, ce n'est pas toujours facile. Parfois, lorsqu'on nous reprend un peu, lorsque on nous contrarie, on a tendance à se cabrer, peut se rebeller. Mais quel témoignage quand une personne dit d'un tel, eh bien, vous avez vu cet homme, comme il est doux, surtout quand on parle d'un homme, je crois. Quand on dit tel homme, vous avez vu sa douceur, eh bien, je crois que c'est une grande qualité. Alors bien sûr, cette douceur s'applique aux hommes, aux femmes, bien sûr, aux jeunes. Il n'y a pas de limite. Imaginons une dame qui ne soit pas douce. Vous imaginez ça? C'est antinomique, ça. Mais pourtant, ça arrive. Mais là, il est question de la douceur, ce fruit de l'esprit. Lorsque, vous savez, parfois, il y a des conflits dans une église. Alors, je ne veux pas dire plus de conflits avec des dames qu'avec des hommes. Mais quand la douceur est là, le conflit va, bien sûr, être apaisé. D'ailleurs, dans Galates, dans ce même livre, dans cette même lettre, il nous a dit que si un homme vient être surpris en quelque faute, eh bien vous qui êtes spirituel, vous qui revendiquez un état, eh bien redressez-le avec un esprit de douceur. Il ne faut pas le brutaliser. C'est vrai qu'on peut rencontrer, on peut nous-mêmes chuter. Et l'apôtre nous rappelle que c'est avec douceur que nous devons reprendre. Et je crois que c'est aussi vrai dans la vie. Vous savez, lorsqu'on travaille, on préfère avoir un responsable, un chef qui parle gentiment qu'un chef qui parle avec brutalité. Mais bon, malheureusement, on voit les deux cas. Mais ceux qui parlent gentiment sont plus appréciés que ceux qui parlent avec brutalité. Donc la douceur, c'est quelque chose de très précieux. Donc je vois que j'arrive pratiquement au terme de mon message. Il y avait aussi la patience, la maîtrise de soi. Mais cet après-midi, je voudrais donc conclure. Vous savez, il y a quelque temps, c'était à l'automne dernier, j'ai déraciné un arbre dans mon jardin. Et vous savez que déraciner un arbre, c'était un arbre assez gros, c'est toujours un petit peu risqué. Puisque, bon, l'arbre, pour le coup, l'arbre, je l'ai un peu brutalisé, j'ai coupé des racines. Et cet arbre, parce qu'il n'était pas à la bonne place, je l'ai déplacé et je l'ai mis à une autre place. Et cet arbre, donc, c'était à l'automne dernier, j'en ai pris soin, je l'ai arrosé. Et là, avec joie, j'ai vu qu'il portait du fruit. Et donc, ça m'a encore encouragé plus à prendre soin de cet arbre. Je l'arrose régulièrement. Je le soigne parce que quand il est un petit peu malade, j'applique ce qui va bien sur les feuilles. Je regarde son tronc, je regarde ses branches, je regarde ses feuilles. Et je prends soin particulièrement de cet arbre. Et je crois que cet après-midi, Dieu prend soin de nous aussi. Nous, c'est vrai que nous avons été déracinés quelque part dans notre vie. Un jour, nous avons compris que la vie que nous menions, ce n'était pas la vie que Dieu voulait. Alors nous avons décidé de changer de vie avec l'aide du Seigneur. Et bien sûr, nous avons quitté certaines choses et le Seigneur nous a plantés dans un nouveau jardin et il prend soin de nous. Comme moi, je peux prendre soin de mon arbre et l'arroser, et bien le Seigneur aussi veut nous arroser. Il veut que nous nous abreuvions et bien, auprès d'une bonne source, non pas à la source de ce monde qui est un petit peu amer, reconnaissons-le, mais croyez bien que Dieu veut prendre soin de nous. Il veut que les fruits que nous portions eh bien, soient de jolis fruits, qu'ils arrivent à une maturité, que ces fruits soient des témoignages dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église, parce que nous ne sommes pas, notre vocation, ce n'est pas de rester dans l'Église, nous ne sommes pas des moines bénédictins. Mais notre vocation, c'est de sortir, puisque nous avons notre vie, chacun a sa propre vie, et nous avons un témoignage à donner. Donc si notre témoignage eh bien, apporte ses beaux fruits, eh bien, je crois que nous glorifions le Seigneur. Nous ne nous glorifions pas nous-mêmes, puisque tout cela, ça ne vient pas de nous-mêmes. Mais au travers de ces fruits, nous voulons réellement glorifier Dieu. Amen. Voilà, j'arrête là, parce que le temps tourne très vite. Je vois qu'on est déjà en train d'exploser le chrono.